Laudetur Jesus Christus.
La crise des sous-marins entre la France et les États-Unis s'invite à New York où débutent les débats de l'Assemblée générale de l'ONU. Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères, a dénoncé un défaut de concertation de Washington et des réflexes d'une époque révolue. On y revient juste après les titres. Au sommaire également, la rentrée des classes ce mardi en Haïti, une rentrée partielle. Après le séisme meurtrier de cet été, la situation reste critique. 250 écoles sont toujours endommagées. Seuls 7 départements pourront accueillir aujourd'hui les écoliers. Éclairage dans quelques instants. Nous nous rendrons ensuite en Turquie, où affluent des milliers d'Afghans depuis l'arrivée au pouvoir des talibans en Afghanistan. Vous entendrez une jeune Afghane qui a quitté Kaboul, la capitale. Elle revient sur son long et dangereux périple et sur sa vie en Turquie. Et dans notre dossier, témoignage rare d'un journaliste français au Yémen. Loin des projecteurs médiatiques, le pays est toujours le théâtre d'un conflit entre les rebelles houthis et les forces gouvernementales. Depuis la ville stratégique de Marib, dernier bastion du gouvernement dans le nord du pays, Quentin Muller décrit l'évolution de cette guerre civile.
Radio Vatican, le journal Hélène Destombes.
Bonjour, c'est un discours très attendu que doit prononcer aujourd'hui le président américain Joe Biden. Une première prise de parole dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations unies depuis son arrivée à la Maison-Blanche. Après la présidence Trump, marquée par un rejet du multilatéralisme, le démocrate devrait au contraire réaffirmer l'importance de la coopération internationale. Une intervention qui pourrait toutefois sonner faux aux oreilles des Français qui ne décolèrent pas suite à la perte d'un énorme contrat de sous-marin avec l'Australie au profit des Américains. Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères à New York depuis hier, a redit l'incompréhension de Paris face à cette décision. Les précisions de Loïc Loury.
Une décision brutale, un défaut de concertation, affirme Jean-Yves Le Drian à propos de la crise des sous-marins. Le sujet, dit-il malgré tout, n'est pas tant celui d'une rupture de contrat militaire, mais bien d'une rupture de confiance entre alliés.
La confiance, le partenariat, une alliance, ça veut dire la transparence, la prévisibilité, l'explication, ça veut dire se parler, ne pas se cacher. Or, tout ça n'a pas été au rendez-vous. Et il va bien falloir qu'on s'en parle.
Et s'il se félicite que les murs du multilatéralisme, dit-il, aient tenu, le ministre, sans citer Donald Trump, évoque une déception face au comportement de son successeur Joe Biden.
Nous pensions que la page de l'unilatéralisme, de l'imprévisibilité, du non-respect du partenaire faisait partie du passé. Cet état d'esprit perdure. Donc on veut comprendre.
Attendons, dit-il, de voir ce que donnera le coup de fil prévu ces jours-ci entre les présidents américains et français. Quant à son homologue Anthony Blinken, aucune rencontre n'est prévue, assure Jean-Yves Le Drian. Mais nous nous croiserons sans doute, précise-t-il froidement, dans les couloirs. New York, Loïc Loury, Radio Vatican.
Et Paris a reçu hier le soutien de l'Union européenne. Les ministres des Affaires étrangères des 27, réunis à New York en marge de l'Assemblée générale annuelle de l'ONU, ont affirmé que cette crise affectait toute l'UE par ses implications stratégiques. Au Canada, le Parti libéral de Justin Trudeau remporte les législatives. Il demeure toutefois minoritaire à la Chambre des communes. Les libéraux devront donc trouver des alliés pour gouverner. Le Premier ministre, qui a obtenu un troisième mandat, a promis ce mardi aux Canadiens un avenir meilleur une fois le pays sorti de la pandémie. Haïti appelle à l'aide en ce jour de rentrée scolaire. Pour une partie seulement de l'île, les conditions restent floues pour des milliers d'enfants. Après le séisme meurtrier de cet été, où plus de 2200 personnes ont été tuées, 250 écoles haïtiennes demeurent aujourd'hui endommagées. 7 départements seulement peuvent ainsi faire leur rentrée ce mardi, une rentrée qui avait déjà été reportée. Quant au reste de l'archipel caribéen, principalement le sud, il devra attendre le 4 octobre. D'ici là, le gouvernement a promis un plan d'aide qui attend encore d'être précisé. Delphine Allaire.
Plus de 250 écoles abîmées, fissurées, sous les décombres, ne rassemblant pas les conditions de sécurité élémentaires pour la rentrée scolaire. Le Premier ministre haïtien a pourtant promis que les locaux effondrés seraient déblayés, consolidés, que les parents seraient accompagnés sans plus de détails. Plus de 16% des écoles du sud de l'île ont été complètement détruites lors du séisme. Les agences humanitaires pressent les donateurs internationaux de contribuer désormais à l'aide d'urgence, sans laquelle ces dizaines de milliers d'enfants ne pourront faire leur rentrée scolaire dans 2 semaines, le 4 octobre. Selon selon l'UNICEF, 39 millions de dollars seraient nécessaires. Pour l'heure, à peine 5 millions ont été alloués. En visite le week-end dernier sur l'île, Yanez Lenartić, commissaire européen à la gestion des crises, reconnaît une lassitude des partenaires étrangers à financer l'aide humanitaire du pays. L'Union européenne qui exige des garanties avant la reprise de son aide au développement. Bruxelles avait déjà progressivement gelé son appui budgétaire à Haïti, car aucune élection n'ayant été organisée depuis 2016, le pays ne dispose plus de parlement fonctionnel depuis janvier 2020. Une rentrée scolaire donc sous garantie démocratique.
Delphine Heller, en Russie, l'opposition dénonce des fraudes massives lors des législatives qui ont vu le parti du Kremlin remporter une majorité des deux tiers. Elle fait état de bourrage d'urnes, de manipulation du vote en ligne et d'observateurs exclus du dépouillement. Pour protester contre les résultats, une centaine de personnes manifestaient hier soir à Moscou. La Russie et le Bélarus sont accusés par Varsovie d'avoir provoqué une vague d'immigration clandestine à la frontière polonaise. Depuis le début du mois, l'état d'urgence a été décrété en Pologne tout au long de sa frontière avec le Bélarus, alors que des milliers de migrants, principalement originaires du Moyen-Orient, tentent de franchir les frontières. À Varsovie, Jasmin Lemieux-Lefebvre.
Crise migratoire provoquée par le Bélarus et son allié russe pour déstabiliser les zones frontalières avec la Pologne, la Lettonie et la Lituanie. C'est la thèse polonaise soutenue par ses alliés de l'Union européenne et par Svetlana Tsihanouskaya, la principale voix de l'opposition au régime du président biélorusse Alexander Loukachenko. Selon elle, c'est un acte de revanche contre les trois pays qui soutiennent les forces indépendantes démocratiques de l'ancienne République soviétique. Des migrants afghans et irakiens continuent d'affluer aux frontières fermées, provoquant nombre de drames humains s'accumulant de jour en jour. Du côté polonais, on promet de secourir ceux qui ont besoin d'aide médicale, dont sept qui ont été retrouvés enfoncés dans des marécages. Trois autres migrants ont été retrouvés morts de fatigue et d'hypothermie dimanche. Les gardes frontières accusent mutuellement leurs voisins de provoquer ces décès, les Biélorusses rapportant la mort tragique d'une migrante que l'on aurait retournée de force en leur pays. Depuis le début du mois, 3800 passages auraient été tentés. À Varsovie, Jasmin Lemieux-Lefebvre pour Radio Vatican.
Direction à présent la Turquie qui, depuis la victoire des talibans en Afghanistan et le retrait des Occidentaux, voit arriver sur son sol des milliers d'Afghans fuyant leur pays. La Turquie est la dernière étape avant l'Europe, rejointe via l'Iran au terme d'un voyage éprouvant et risqué. À Istanbul, un handlower a rencontré Yasemin, une Afghane de 19 ans qui a quitté Kaboul juste après la chute de la ville. Elle raconte son périple et son quotidien en Turquie, fait de confusion et de peur.
Yasemin rêvait de devenir ingénieur en informatique dans son pays, l'Afghanistan. La victoire des talibans a tout effacé, tout brisé. Mais Yasemin est là, dans un café tranquille d'Istanbul, moins d'un mois après son départ de Kaboul. Dans son malheur, dit-elle, elle a eu de la chance. Yasemin n'a pas été évacuée. Avec son frère de 18 ans, un an plus jeune qu'elle, elle a fui par la route. 4500 km entre Kaboul et Istanbul, en taxi, à pied, puis en car. Franchir à pied la frontière montagneuse entre l'Iran et la Turquie, c'est son souvenir le plus éprouvant. Pas seulement la douleur et la fatigue physique, ce qu'elle a vu aussi.
À la frontière, on s'est fait arrêter deux fois par les gendarmes turcs. Ils ont torturé les hommes. Comme je suis une femme, ils ne m'ont rien fait. Ils n'ont rien fait non plus à mon petit frère, mais aux autres hommes, oui, beaucoup.
À Istanbul, son frère trouve un travail dans un atelier de textile, mal payé et non déclaré puisqu'ils sont entrés en Turquie par des voies illégales. Yasemin, elle, évite de sortir.
J'ai très peur quand je vois les policiers. Je me demande ce que je vais faire s'ils m'arrêtent et me renvoient en Afghanistan. Une fois, mon frère s'est fait contrôler, les policiers lui ont demandé où il allait, ils lui ont demandé ses papiers, il a dit qu'il n'avait rien et la police l'a laissé partir. C'est une question de chance.
Yasemin dit se sentir perdue. La moindre évocation de sa famille, ses parents, ses quatre frères et sœurs demeurés à Kaboul, embuent ses yeux noirs de grosses larmes. Elle assure qu'elle et son frère, dès qu'ils auront assez d'argent, essaieront d'aller en Europe. À Istanbul, un endroit pour Radio Vatican.
Au Liban, le Parlement a accordé hier sa confiance au nouveau gouvernement dirigé par le Premier ministre Najib Mikati au terme d'une séance de près de 8 heures. Cette nouvelle étape devrait permettre à la nouvelle équipe ministérielle de commencer officiellement à mettre en application son programme de redressement de pays frappé par une crise économique sans précédent. Devant les parlementaires, le Premier ministre s'est de nouveau engagé hier à reprendre les négociations avec le Fonds monétaire international. 78% de la population libanaise vit aujourd'hui sous le seuil de pauvreté selon l'ONU.
Une septième année de guerre civile à l'extrémité sud de la péninsule arabique. Au Yémen, les combats entre les rebelles houthis, soutenus par l'Iran, et forces gouvernementales appuyées par l'Arabie saoudite, déchirent toujours le pays. La ville stratégique de Marib, au nord, n'est toujours pas passée sous le contrôle des rebelles qui luttent pour la conquérir par les biais aériens ou terrestres. Marib, cible des convoitises, s'est profondément transformée durant ces années de conflit. Elle est passée de 30 000 habitants à plus de 1,5 million. Avec l'arrivée de déplacés, placés dans des camps de réfugiés à l'intérieur et l'extérieur de la cité, entourés de montagnes. Une région où, malgré les besoins urgents, l'aide humanitaire peine à arriver. Quentin Muller est journaliste indépendant, unique francophone, qui séjourne régulièrement au Yémen. Écoutez son témoignage.
Déjà pour s'y rendre depuis Seyoun, c'est d'où je suis parti, de l'Est, j'ai pris une route qui était extrêmement gardée. J'ai dû franchir à peu près 40 checkpoints. Et donc cette route est la dernière qui relie Marib aux autres villes gouvernementales et au reste du pays. Donc la ville en tant que telle, on a le sentiment qu'elle a explosé en termes de volume, en termes de construction, d'habitation. C'est une ville qui avant était relativement petite. Les Maribis m'ont toujours dit qu'avant c'était une ville avec qu'une seule route. Aujourd'hui, il y a eu énormément de constructions puisque au fur et à mesure que les gens se sont enfuis des zones tenues par les rebelles, ils sont venus à Marib et ont construit tout un tas d'habitations et de quartiers informels. Et donc la ville aujourd'hui s'étale à perte de vue. Il y a beaucoup de quartiers qui se résument à des habitations en ciment, pas reliées à l'électricité ni à l'eau courante. Il y a beaucoup de camps aussi, d'immenses camps de déplacés, soit à l'intérieur de la ville sur des zones en friche ou alors qui sont installés à l'extérieur de la ville, donc sur les roches, les flancs des montagnes volcaniques. Donc c'est tellement désertique Marib, quand on s'éloigne de l'irrigation sans l'eau, Marib c'est des montagnes, des collines un peu partout avec beaucoup de roches volcaniques et c'est extrêmement chaud et extrêmement désertique.
Comment l'aide humanitaire se ferait-elle un chemin dans cette ville coupée du reste du pays ?
Elle est très faible, l'aide humanitaire, je ne comprends pas, parce que beaucoup d'ONG ont leur base à Sanaa, dans la partie outils. Donc moi j'ai suivi MSF et Oxfam par exemple. Les rares ONG qui sont dans cette ville-là ont établi des antennes à Marib, mais leurs antennes ne sont pas suffisantes en termes de moyens humains et financiers. Marib, c'est la ville qui a reçu le quart de tous les déplacés du pays. Donc il y a plus d'un million de déplacés rien que dans la ville.
Dans quel état se trouve la population de Marib ? Est-ce qu'elle l'espère encore ?
Il y a quelque chose quand même d'assez incroyable dans cette ville et assez inattendu, c'est que le gouverneur Sultan Al-Arada, qui est gouverneur depuis 2012, il fait un travail phénoménal à Marib, malgré le fait que voilà, il y a beaucoup de déplacés, il y a un budget qui lui est alloué pour le développement qui est quand même relativement ridicule par rapport aux besoins, mais il a déjà réussi à fédérer les tribus qui se faisaient la guerre avant et en faire un pion essentiel de la résistance. Il met l'accent sur le développement de la ville construisant des écoles pour les réfugiés, en essayant de faire le maximum pour aussi sécuriser la ville, en restructurant les forces de sécurité. Donc malgré le fait qu'elle soit en siège, c'est-à-dire que moi j'ai pu me promener la nuit, etc., sans problème d'insécurité, il a fermé les magasins d'armes dans la ville. Et surtout, il y a une liberté d'expression à Marib, contrairement à tout le reste du pays quasi. Il y a beaucoup de journalistes yéménites qui sont réfugiés à Marib et qui écrivent de manière vraiment très libre sur à peu près tous les partis politiques, sans avoir peur de se faire assassiner. Par exemple, c'est pas le cas à Aden. Il y a un espèce de sentiment, malgré encore une fois le fait qu'il y ait beaucoup de déplacés, que la ville de temps en temps fasse l'objet d'attaques aériennes de la part des Houthis, il y a un espèce de sentiment à Marib de, il y a une possibilité après la guerre, si la guerre se termine, que Marib devienne un exemple pour le reste du Yémen, en termes de liberté d'expression, en termes de développement, en termes aussi de cohésion et d'unité nationale.
Comment expliquer le peu d'attention internationale que suscite le Yémen ?
Avant la guerre, déjà, il y avait peu d'attention sur le Yémen. C'est un conflit qui est extrêmement compliqué. C'est très, très difficile de s'y retrouver. Il y a plusieurs Yémen, il y a plusieurs guerres dans la guerre. Par rapport à la France ou l'Italie, est-ce que ce sont des pays qui ont beaucoup d'intérêt et qui ont eu beaucoup de liens avec le Yémen, je ne sais pas, comparé par exemple aux États-Unis ou à l'Angleterre. Donc peut-être pour ça aussi que nos diplomaties ne se mêlent pas vraiment et puis ils suivent nos alliés du Golfe. Et puis la couverture est extrêmement compliquée. Pour un journaliste, c'est un coup d'y aller.
C'était le témoignage de Quentin Muller, unique journaliste francophone qui séjourne régulièrement à Marib, au Yémen. Interrogé par Delphine Allaire, il était ce matin l'invité du dossier de Radio Vatican. C'est ainsi que se referme cette édition. Merci de votre écoute. On se retrouve à 13h. Je vous souhaite une très belle matinée. À plus tard. Au revoir.